Merci Amnesty pour cette émission sur les droits humains. On enchaîne tout de suite avec le laboratoire. Soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver. Une émission un petit peu particulière ce soir. Comme ça arrive de temps en temps dans le laboratoire, une émission avec un invité. Je reçois ce soir pour une carte blanche quelqu'un qui depuis longtemps est musicien et écrivain depuis peu. J'ai saisi l'occasion de la parution de son livre Slint pour l'inviter. Il y a eu quelques semaines une présentation dans une librairie rouennaise. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc quelques semaines, et une présentation en forme de lecture, analyse, démonstration, guitare en main de ce qui se passe dans la musique de ce groupe américain des années 90, auteur d'un seul album intitulé Spiderland, dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai vite compris que j'étais en face de quelqu'un de passionné de musique, quelqu'un qui avait abordé l'écoute et l'analyse en musicien, en guitariste, en compositeur aussi. J'ai découvert ensuite qu'il était donc musicien lui-même. Il a 11 albums sur son Bandcamp, ce site qui partage donc la musique. Et puis ensuite, une fois l'invitation lancée pour le laboratoire, il y a eu la lecture du livre, les thèmes qu'il m'a proposé d'aborder ce soir pour cette émission, et enfin la playlist qu'il a préparée pour nous, pour nous accompagner ce soir, qui m'ont donné hâte de le recevoir au laboratoire. C'est chose faite. Bonsoir Sylvain Rollet.
Bah salut Emmanuel, merci beaucoup de m'accueillir au laboratoire.
C'est ça, merci d'être là et bienvenue donc au labo. On a des choses à se dire, on a une playlist, on a des choses à écouter. Et tu as peut-être quelque chose à dire sur ce premier morceau qui va ouvrir l'émission ce soir, Leonard Cohen.
Oui, bah c'est un des premiers morceaux que j'ai appris à jouer dans ma vie, et que un morceau que j'adore, qui aborde plein de thèmes et qui est un espèce de macrocosme, et puis qui est aussi un petit clin d'œil à parce que
une de tes activités peut-être.
Ouais, c'est un petit clin d'œil à mon travail de musicien amateur. Et puis professionnellement, j'ai un métier qui consiste à aménager l'espace, quoi. Et donc y a une résonance aussi dans cette histoire de rue, de lieu. La chanson aborde beaucoup des questions de lieu, d'aménagement. Et donc, ça fait un peu la passerelle entre l'univers professionnel et puis l'univers de ma passion de la musique, où tu regardes, tu peux transformer le monde concrètement dans ton métier, et après le monde de la chanson, c'est plutôt de transformer ton regard sur le monde. C'est un peu ça l'idée. Et donc voilà. Les deux sont aussi importants, quoi, pour moi, quoi.
Tu dis aménager l'espace, c'est-à-dire en fait architecte de profession.
Alors maintenant je fais plus du projet urbain, et dans cette chanson-là il y a aussi des thématiques d'aménagement. On croise aussi des autoroutes, des vieilles fermes abandonnées. Il y a vraiment presque une notion d'aménagement du territoire.
Bah, la chanson s'appelle Stories of the Streets. Écoutons-la tout de suite.
Bah ouais. The stories of the street are mine. The Spanish voices laugh. The Cadillacs go creeping now through the night and the poison gas. And I lean from my window sill in this old hotel. Yes, one hand on my suicide, one hand on the road. I know you've heard it's over now, and war must surely come. The cities, they are broken in half, and the middlemen are gone. But let me ask you one more time.
the dust. All these hunters who are shrieking now, or do they speak for us? And where do all these highways go now we are free? Why are the armies marching still, and we're coming home to me? Oh, lady, with your legs so fine, oh, stranger at your wheel, you are locked into your suffering, and your pleasures are the seal. The age of lust is giving birth, both the parents ask the nurse to tell them fairy tales on both sides of the glass. And now the infant with his cord is hauled in like a kite, and one eye filled with blueprints, one eye filled with night. Oh, come with me, my little one. We will find that farm and grow us grass and apples there, and keep all the animals warm. And if by chance I wake at night and I ask you who I am, oh, take me to the slaughterhouse. I will wait there with the lamb. One hand on a hexagram and one hand on a girl, I balance on a wishing well that all men call the world. We are so small between the stars, so large against the sky, and lost among the subway crowds, I try to catch your eye.
Leonard Cohen. Ça me plaît beaucoup cette entame d'émission, Sylvain Rollet. Donc tu as parlé de ton travail d'aménagement de l'espace, comme tu as dit, de l'architecture. Et moi, j'y vois tout de suite un pont vers quelque chose qu'on abordera peut-être plus tard dans l'émission, après avoir parlé un peu de ton travail de musicien. C'est cette citation en exergue de ton livre sur Slint qui dit « J'aime que l'architecture soit complexe et contradictoire », c'est le début de la citation.
Ouais, bah c'est une citation de Venturi qui défendait l'ambiguïté en architecture. C'est un peu un opposant du modernisme du côté peut-être un peu trop puritain de l'architecture moderne. Et justement... l'ambiguïté, bah on la retrouve aussi dans cette chanson de Leonard Cohen qui aborde plein de thèmes. Chacun peut l'attraper comme il veut. Mm-hmm. C'est un peu une œuvre ouverte. Malgré qu'il y ait une structuration il y a ce côté d'englober le monde entier qui est hyper fascinant, de toutes les thématiques possibles dans une seule chanson.
Ça va même jusqu'à évoquer pour toi la guerre, et notamment avec une résonance sur l'actualité.
Il y a vraiment plein de choses de l'actualité dans cette chanson-là, sur la pollution, sur le fait de manger de la viande ou pas, sur la cruauté. Il y a aussi un aspect prophétique, comme dans pas mal de chansons de Leonard Cohen, mais en même temps, il y a aussi une structuration très forte par la polarisation, puisque à chaque fois, il conclut chaque couplet il met en parallèle deux choses opposées. Cette polarisation, j'en parle aussi pas mal
sur
les effets de contraste qu'utilise aussi beaucoup Slint dans sa musique. Voilà.
Qui n'a pas peur de choses contradictoires sein même de la composition.
Exactement ça.
Ouais.
Et puis après, c'est un peu un exercice sur le fil pour moi de parler à la fois du bouquin et de mon travail de chanson. Donc là, pour la chanson d'après, j'ai retenu une chanson de mon dernier album que j'aime beaucoup, mais que je sais que je ne peux pas la jouer en live. Et donc, je me suis dit, là, le fait d'être à la radio, c'est l'occasion de la faire entendre.
Ouais.
Et puis en plus, c'est un petit clin d'œil, puisqu'il y a un des couplets qui se passe à Wassel, dans une station-service de Wassel, à un moment un peu prophétique, et un petit clin d'œil aussi au côté prophétique de Leonard Cohen. Donc ça fait j'essaie de tisser un lien entre les choix musicaux puis les deux thématiques qu'on doit aborder ce soir.
Ouais, on va plonger donc dans ta musique avec un extrait de l'album Aimanté qui est sorti le 26 mars de cette année. C'est tout frais.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas prévu que les deux œuvres sortent la même année, mais le Covid a fait que finalement ça s'est tombé la même année. Faut faire avec. Et puis j'ai beaucoup d'actualités cette année. après en avoir pas du tout eu pendant plusieurs décennies.
Écoutons ça.
Quand la dame de cœur est devenue degrés, si on lui fait pousser
papier, le cœur noir est transformé, transformé en pic. Transformé en pic. Quand la dame de cœur est devenue une dame de pique. Le roi de cœur est devenu
un valet, un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, un 6.
Un zéro de cœur. Que fait la dame de trèfle? Que pense la dame de trèfle? Qu'en dit la dame de trèfle? Où est la dame de trèfle? Avec sa dame de trèfle, la dame de trèfle brille par son absence.
La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas.
La vie est faite de morceaux.
Pas mal. Bien que les mon Dieu soient ajoutés.
La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas.
Une petite fin abrupte sur ce morceau de Jean Barthes qui nous permet de faire, d'écouter à la suite deux choses, toi et Jean Barthes, qui peut-être avec qui tu partages peut-être ce goût, on en discutait à l'instant, de la débrouillardise et des sorties de disques un petit peu sauvage, enfin en tout cas sans label. Enfin, lui, il avait peut-être un label, mais toi, tu.
Ouais, il était sur un label assez connu quand même, mais c'est peut-être plutôt aussi. Moi, j'ai retenu cette chanson-là pour plusieurs raisons. Premièrement, un petit clin d'œil au fait de parler à la fois de mon disque et d'un livre qui n'ont pas grand-chose à voir. Et donc, il y a le petit clin d'œil La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas. C'est vrai qu'entre le morceau assez pop sucré qu'on a écouté juste avant, et puis la musique de Slint, c'est quand même le grand écart, quoi. Ça se joint pas vraiment tout à fait, quoi.
C'est sûr.
Il y a ça.
Tu me parlais des synthés que tu avais mis sur ce morceau.
Voilà,
qui était
des synthés qui ont été ensuite mixés par David Fontaine.
Pas loin d'ici.
Voilà, pas loin d'ici, ouais. Dans son studio. Je vois l'autocollant Anya, là.
C'est ça, c'est son groupe. C'est son petit groupe.
Ça me fait penser à David Fontaine. On voit qu'il est passé dans le studio.
Oh, bien sûr, bien sûr.
Et puis, y a ça. Il y a aussi le goût pour l'expérimentation dans la chanson, parce que Jean Barthes, c'est aussi une façon de faire de la chanson un peu nouvelle, un peu différente, qui est apparue dans les années 90, en même temps que d'autres auteurs comme Dominica, Mathieu Bougars, qui m'ont vachement influencé, où la chanson, le but était peut-être d'aller chercher un peu ailleurs, quoi. En même temps, à la même période, il y avait aussi la même chose en bande dessinée. Moi, ça m'a beaucoup marqué pour faire mes chansons.
Mmh.
L'association, tout ça, ouais, la revue Lapin, où ils essayaient d'entraîner la bande dessinée vers d'autres choses. Et puis, ces auteurs-là donc, que je viens de citer, c'était un peu ça aussi, c'était l'expérimentation. Donc là, le sample en boucle, un petit clin d'œil peut-être à Steve Reich, on pourrait dire, sur ses tout premiers morceaux, où justement, il y a un prêcheur black qui répète, et ensuite il met en boucle la phrase... pour moi, ça me fait penser à Steve Reich, quoi, donc à la musique contemporaine. Voilà, donc il y a ça.
Et puis, dans ton morceau à toi, il y a des choses. Effectivement, tu cites Mathieu Bogart. On y pense effectivement à cet album super. Il s'appelait, je crois, le premier.
Ouais, le tout premier. Ouais, où c'est pareil, où il avait pris beaucoup de liberté, un côté bricolé.
Ouais.
Peut-être une plus d'ouverture, je saurais pas comment trop dire, mais j'avais adoré ce premier album.
Et puis encore plus chez Dominica avec son premier disque.
La Fossette. Ouais, La Fossette, qui aussi, j'ai un petit peu participé à l'écriture du discogonie sur La Fossette, et ça m'a un peu mis le pied à l'étrier pour oser écrire le discogonie Slint. Alors, on voit que les choses sont séparées, mais elles sont en même temps reliées.
Ouais, donc là, tu viens de parler de discogonie. On peut d'ores et déjà citer l'éditeur de ton livre, Slint, Spiderland. Donc, densité, un éditeur rouennais avec cette collection discogonie qui s'est proposé de sortir des livres sur un disque à chaque fois. Avec un cahier des charges assez précis où chaque chanson est prise l'une après l'autre. Et voilà, donc tu parles du volume qui est sorti sur Dominica, il y en a eu sur Cure, sur Les Doors, sur plein de choses. Maintenant, on doit en être à une vingtaine de numéros.
25, ouais. Moi, je suis depuis le début parce que, en plus d'être mon éditeur, c'est un super ami. Donc. J'étais super content aussi de pouvoir écrire ce livre. C'est une chance inouïe, quoi, parce que j'ai jamais écrit d'autres livres. Et c'est mon premier livre, quoi.
Ouais. Ouais.
Puis après, j'adore écrire aussi. J'ai adoré faire ça. Et c'est assez prenant, hein, quand même. Mais ça a un peu peut-être embrayé sur d'autres choses. On verra. Là, je ne sais pas trop.
Ouais, ouais. Et alors, pour revenir juste à ces influences, moi, quand j'ai écouté ta musique, j'ai pensé, moi aussi, à Jean Barthes, que tu as saisi au bout donc, pour programmer ce titre tiré d'un album de 97 qui s'appelait « Affaires classées avec fracas et pertes ». J'en ai trop vu des murs et des pas vertes. Et le morceau qu'on écoutait, c'était Modern Style. Modern Style, on va le dire il le dit lui-même.
Titre à la rallonge qui me plaît beaucoup. Voilà. Et puis peut-être la troisième raison aussi, c'est que pour avoir retenu ce titre, c'est que je me suis quand même rendu compte, à force de faire des chansons, que le média chanson, même si on veut l'emmener un peu ailleurs, il te ramène toujours un petit peu à la thématique de l'amour. C'est quand même... la chanson était inventée pour parler de ça, quoi, parler de troubadour. Et donc, cette question de faire des chansons d'amour m'a pas mal interrogé, ouais. Quoi, et sur le morceau que je propose par la suite. On voit un côté peut-être un peu maniaque, un peu sur, ça c'est sur un album sur un album qui est sorti
en 2013,
l'an dernier, quoi. Ouais,
auto-chanson
ou ouais. Alors là c'était j'avais choisi de prendre une posture vraiment oulipienne et de traiter la thématique de la chanson d'une matière méthodique.
Ouais, avec une contrainte
avec
forte.
Avec des contraintes. Sur chaque chanson, il y a une contrainte forte qui est très différente à chaque chanson. Et j'ai souhaité faire écouter le morceau Statistique, qui est une approche justement peut-être pas très romantique, statistique de ce que c'est que l'amour dans les chansons, quoi. Et ça rebondit un peu avec mon dernier album où je suis plus rentré dans le cœur de la question, et aussi avec peut-être plus de douceur, mais cet album-là c'était plus froid, plus analytique.
100% des chansons ont des paroles et une musique, et là-dedans 99% ne deviendront pas des tubes, et pourtant 98% restent en tête si matraqués, mais surtout 97% ne valent rien et rendent idiots. 70% des chansons sont des chansons d'amour, et là-dedans 34% des chansons s'occupent de l'amour de Dieu, et aussi 34% des chansons traitent de l'amour romantique, et enfin 2% des chansons se consacrent à l'amour d'autre chose. Je redis, 34% des chansons traitent de l'amour romantique, et là-dedans 12% des chansons sont des chansons faites pour charmer, et aussi 5% des chansons sont faites pour faire durer l'affaire, et enfin 17% sont là pour dire qu'on ne peut pas l'oublier. Je déduis donc 30% des chansons ne sont pas des chansons d'amour, qu'il y a là-dedans 15% pour donner du courage et calmer les peurs, et aussi 8% s'emploient à raconter notre société, et enfin 7% invitent à lui échapper par psychotrope. Il reste donc 3% qui traitent de sujets pas encore évoqués, et là-dedans 1% développe des tests sur des sujets très sérieux, mais quasi 0% utilise pourcentage et statistique, et moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Je rappelle que 100% des chansons ont des paroles et une musique, et là-dedans 70% des chansons sont des chansons d'amour, mais quasi 0% utilise pourcentage et statistique, et moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons. Moins de 1% des chansons sont des chansons sur des chansons.
Vous écoutez le laboratoire, nous sommes dans la carte blanche de Sylvain Rollet qui vient de nous faire écouter un de ses titres d'il y a 10 ans, en 2013, sur l'album Autochanson, le morceau Statistique. Effectivement, très froid dans ses constats. Par contre, Coq à l'âne total avec Jean-Paul Fouchécourt, qui interprétait une chanson de Michel Lambert à l'instant, tirée d'un album qui s'appelle Air de cour, publié en 2000. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est « Vos mépris chaque jour ». Alors, je suis allé voir un petit peu les paroles parce que ça m'intriguait. « Vos mépris chaque jour me causent mille alarmes. Moi, je chéris mon sort, bien qu'il soit rigoureux. Hélas, hélas, si dans mes mots je trouve tant de charme, je mourrais de plaisir si j'étais trop heureux. »
Plus heureux, si j'étais plus heureux.
Ou plus heureux.
Ouais. Oui, j'ai choisi cette... Cette chanson-là, elle fait un peu le lien avec celle d'avant, c'est-à-dire il y a quand même aussi un petit côté humoristique dans le calembour.
Oui, parlons-en, parce que oui.
Et en même temps, si tu fais pas gaffe, t'es beaucoup dans la plainte quand même. Et la plainte, c'est quand même c'est l'héritage aussi des troubadours, parce qu'en fait, quand tu regardes toutes les chansons des troubadours, ou bien les vieilles chansons de la Renaissance, comme ça, ils font que de se plaindre. Ils se plaignent de l'amour que ça fait souffrir, etc. Mais en même temps, c'est peut-être aussi ça l'intérêt. C'est ça qui fait que tu fais des chansons, quoi.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Sinon, il ne se passerait rien.
Une sorte d'universalisme de la chanson, même jusqu'à la pop, quoi.
Ouais, c'est ça. que tu retrouves ça. Peut-être que j'ai, dans le registre de se plaindre, c'est mon avant-dernier album, La Marnière, où là, il y a vraiment une collection de plaintes diverses et variées. Et c'est un album pas très gay, quoi.
Sous contrainte ou...
Non, là, pour le coup, je me suis rendu compte, après l'avoir fait, que c'est vrai qu'il était, il était pas très jovial, avec des petites pointes, toujours avec des petites pointes d'humour quand même, parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Et voilà, et donc, donc j'ai choisi de faire écouter la chanson Falaise Bâchée de cet album qui est un peu sombre, quoi.
Qui est sorti un an après, en 2014.
Voilà.
T'as beau les avoir bâchés, les falaises, les éclairs frappent la mer dans la nuit, devant l'enfer posté comme deux frères, amis. T'as beau les avoir bâchés, les falaises, les éclairs viennent, ils sont à moins d'un mille. Au pied du phare, je me sens mal à l'aise. T'as beau les avoir bâchés, les falaises, moi je te dis, je veux rester en vie. Tu réponds, cesse donc tes fadaises. Se mêler au paradis. Thank you.
Là, tu m'as fait plaisir, Sylvain, avec ce morceau pop qui va nous mettre sur la piste donc, de la pop song parfaite. Avec donc les Frank and Walters à l'instant. Juste avant, c'était donc Falaise Bâché. On l'a dit, je crois, sur un album de 2014, la Marnière. Et donc Frank and Walters, Happy Busman, 1992.
Ouais, bah, je voulais justement, peut-être pour faire un contrepoint avec ce que j'ai dit avant, prendre un exemple d'une chanson qui soit vraiment une boule d'énergie dans la jovialité, dans la positivité absolue. Et j'ai tout de suite pensé à cette chanson-là, avec un rythme bien dynamique.
Un peu soutenu, ouais.
Ouais, la voix de ce chanteur, je sais plus son nom, mais qui t'entraîne vachement. Et puis l'histoire hyper positive de ce gars en bus qui emmène tout le monde
dans la joie.
Dans la joie, qui fait monter les gens dans son bus. Et ça reste quand même pour moi un objectif que j'ai pas forcément encore totalement atteint de tirer vers la positivité. C'est finalement en chanson, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que le côté dark, c'est peut-être plus facile, et le côté plus jovial, c'est quand même un peu plus difficile.
Gageur,
ouais. Et alors après, j'ai choisi une dernière chanson du dernier album, de mon dernier album, où peut-être il y a un peu ça, sur une rencontre amoureuse, donc c'est assez autobiographique, avec l'histoire d'amour que je vis avec ma compagne Ramona, et qui a fait quelques chœurs aussi dans cet album. La chanson Winner Transparent, j'ai essayé de mettre un peu une boule d'énergie, de transmettre une énergie positive dans la chanson. J'espère que j'ai un peu réussi.
J'étais dans, je rôdais, il aussi mieux la scène. J'étais dans, moi le top loser de Paris. Et pour les passants, les joggeurs du soir, pour les chiens et leurs promeneurs, et pour les moitrieuses et la lune en croissant, j'étais transparent. J'étais dans, attiré par la tour Eiffel. J'étais dans, moi le top loser de Paris. Et pour les passants, vrais ou faux mendiants, les touristes, les pas touristes, et même pour les marchands de souvenirs ambulants, j'étais transparent. Et puis je t'ai vu, j'ai vu que tu m'as vu. Et ni les passants, les marchands ambulants, ni les chiens et leurs promeneurs, ni les mouettes rieuses, ni la lune en croissant ne pouvaient s'imaginer que j'étais devenu, que j'étais devenu. Winner de Paris.
J'ai l'habitude de dire en lançant l'émission, une émission tous azimuts, on y est.
Ah ouais, ouais.
Retour au baroque alors.
Ouais, ouais.
Avec Couperin.
Ouais, bah donc ce morceau-là qui est sur son dernier livre. Donc il publiait ses morceaux par livre. Là, c'est vraiment juste avant sa mort. Donc il a beaucoup de maturité musicale. Il propose des mélodies incroyables, des contrepoints incroyables, avec notamment des jeux d'intervalles, des écarts de notes surprenants. Il nous surprend et puis en même temps, il nous amuse toujours avec ses titres. Donc ce qui est intéressant aussi chez Couperin, c'est qu'il te balance toujours des titres assez rigolos et tu dois essayer de te concentrer en écoutant le morceau pour imaginer une correspondance entre le titre et la musique. En réalité, il y en a jamais vraiment, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la convalescente. Moi, après, il y a d'autres titres qui sont plus faciles. Là, vraiment, on a un petit peu du mal à capter où est la convalescence dans ce morceau, mais c'est pas grave, il faut continuer à chercher. Voilà, et puis j'ai choisi ce morceau-là justement pour faire le lien avec. On va parler un peu plus du livre de.
Et oui.
Sur Slint. Finalement, le côté un peu savant aussi de ce groupe de rock qui avait une bonne connaissance de toutes sortes de musique.
De plein de choses, ouais.
De plein de choses. Et une bonne maîtrise, justement, des intervalles. Moi, je voulais lire un extrait où je parle, justement, des intervalles. Donc, dans le morceau Washer qu'on va écouter après, il y a des jeux d'intervalles dans les riffs de guitare qui sont super intéressants. Et page 45. Je vais lire que des petits bouts parce que sinon, ça va être trop long. Donc, la métaphore de la vague me semble bien décrire le phénomène. Les arpèges ternaires de la Telecaster commencent sur des intervalles assez importants, du mi grave au sol, de l'octave en dessous, au-dessus, soit 12 tons, et le contour de l'arpège se réduit à la manière d'une balle de ping-pong qui rebondit pour se terminer par l'intervalle le plus petit, celui d'un demi-ton dissonant, si bémol si, si bémol si. Et un peu plus loin, donc page 48, je parle d'un autre riff qui vient justement en contrepoint. À 4 minutes 22, voici un nouveau couplet épuré qui commence par un please presque inaudible, puis, à l'inversion des guitares, du féminin au masculin, répond l'inversion de la voix du masculin au féminin. Brian passe en voix de tête et nous confirme que c'est bien le personnage féminin qui implore. Les instruments jouent pianissimo pour mettre en avant la douce réverbération de la voix, mais pas seulement. Après, ça continue, mais je vais peut-être m'arrêter là, parce que c'est pas trop long. Donc après, je parle du son de la caisse claire, qui est super important dans le morceau. Et je finis, je lis juste une petite phrase encore un peu plus loin. Le groupe emmène l'auditeur jusqu'à cet oxymore chansonnier, quand le mot « pillow », donc « oreiller », à 4 minutes 39, est suivi de la frappe de caisse claire la plus perçante. L'oreiller est en acier trempé, c'est celui du silence assourdissant des insomnies de la personne abandonnée. Voilà, après on peut écouter ce long morceau qui est le plus facile de l'album, peut-être le plus doux, le plus harmonique.
Écoutons ça, Washer,
et très long.
Par Slint.
Thank you. remember me as you fall to sleep. Fill your pockets with the dust of the memory that rises from the shoes on my feet. I won't be back here. It's dark outside. Don't be afraid. Every time I ever cried for fear, it's just a mistake that I made. Wash yourself in your tears and build your church on the strength of your faith.
tonight, dreamlessly. My head is empty, my toes are warm. I am safe from home.
Nous arrivons au bout des 8 minutes 50 de ce morceau Washer. Merci de nous avoir fait entendre ta façon d'écrire et de t'atteler à ce sujet, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre, qui m'a un peu fait penser à un livret d'opéra quelque part, où chaque moment de chaque chanson est ressenti et décortiqué, ton après ton, note après note, intervention de tel ou tel instrument après tel ou tel instrument. Et c'est passionnant de découvrir ça comme ça. On se disait ça en off là, mais pendant le morceau, c'est vrai que cet album s'y prête aussi, pour les raisons de composition des membres du groupe aussi. Peut-être tu pourrais nous aider un mot là-dessus.
C'est à la fois une musique très sensible là, qui nous entraîne dans des émotions quand même assez poignantes, et en même temps très savante. Parce qu'elle combine plein de choses, et aussi plein de choses qui viennent de différents mondes musicaux. Je m'étais centré sur les mélodies, mais il y a des choses sur les textures sonores qui viennent plus de la musique concrète. Il y a des sortes d'improvisations presque free jazz. Il y a des parties répétitives qui sont piquées à la musique répétitive. Puis après, la diction, il y a des clins d'œil aussi à la poésie du quotidien. Il y a plein de choses, et ce qui est formidable, c'est que en décortiquant l'album, je me suis rendu compte que c'était vraiment une composition de groupe où chacun avait totalement participé, et pour faire une espèce de boule comme ça. Et en fait,
sans que personne prenne le dessus,
ouais,
forcément,
ça,
sans leader.
Il y a une espèce d'équilibre entre les quatre membres du groupe, qui chacun apporte des idées, chacun apporte des textures, et s'enrichissent l'un l'autre. Et ils étaient très jeunes quand ils ont fait l'album, et donc ils étaient vraiment dans l'aventure, on avance, on crée des morceaux, on se pose pas trop de questions, et en même temps, c'est très pointu sur l'écriture, est très ça respire, c'est pas non plus ennuyeux. Enfin, donc ça, c'est vraiment.
Donc c'est quelque chose de rare, ce qu'on se disait, c'est
ouais,
que.
C'est rare, ouais. C'est
avoir rare. Un groupe qui n'a pas d'exécutant, qui est plutôt avec un leader qui composerait tout, qui déciderait tout à l'avance.
Ouais, ouais, c'est vrai que même dans pas mal de musique pop, c'est souvent il y a un songwriter. Et puis les autres, c'est plutôt des exécutants où ils apportent des petites touches, mais tu sens que quand même le là est donné par un membre du groupe. Là, là c'est Céline, quoi. C'est un groupe. Tu sens qu'ils ont passé des heures ensemble et ouais. Tu pourrais pas composer ça si tu passes pas des heures ensemble. C'est le temps passé ensemble. C'est hyper touchant aussi. Et puis, moi, c'est un des albums dont je me lasse le moins. J'en parle au tout début du livre, comment ça se fait que j'arrive à le réécouter autant de fois, quoi. Mmh. Et je pense qu'il y a un des passages du livre qui est là-dessus, c'est que je pense que ce côté collectif qui fait qu'on ne s'en lasse pas. Mmh. Qu'il y a toujours une accroche à un autre membre, à un son que t'avais pas, auquel tu n'avais pas prêté attention et finalement il est là, etc.
Avant qu'on écoute un deuxième titre de cet album, peut-être un mot sur ta façon de composer les chapitres. Je t'ai entendu le dire l'autre jour à la librairie. Tu as pris l'option d'avoir des éclairages très différents sur les chansons, de les approcher différemment ouais. À chaque fois. Tu peux...
Ouais, ouais. Bah, en fait, je me suis dit que chaque. Donc, l'album il est composé de 6 chansons. Et qui sont quand même assez différentes les unes des autres dans leur structure. Même, on s'est amusé, enfin, Hugues a accepté de publier les petits graphiques que j'ai fait laborieusement pour essayer d'analyser la structure des morceaux et qui sont joints dans. Ça fait des graphiques assez biscornus qu'on a appelés les freaks. Avec un petit clin d'œil, parce que le cinéaste qui a créé le film Freaks, Todd Browning, il vient aussi de Louisville comme le groupe. Donc une ville au centre des États-Unis, une ville un petit peu moins identifiée que les villes habituelles des groupes de rock. Quoi, ouais. Avec un petit milieu qui tournait autour du groupe et avec des membres du groupe qu'on retrouve, qui rejouent dans d'autres albums identiques. Voilà, un petit milieu de Louisville avec des musiciens tous exceptionnels qui ont tous fait des super albums. C'est incroyable. Enfin, il y a eu comme une espèce de concentration de bons musiciens. Voilà. Et
donc, ton approche par éclairage successif, mais
ouais, alors donc,
soit parfois par la narration.
Oui, voilà. Je me suis dit, je vais faire un peu... Je vais copier un peu ça, je vais faire une expérience un peu différente dans chaque... Donc l'exercice de style de Discogonie, c'est de parler de chaque chanson de l'album, et puis les pages noires qui sont centrales, faut parler de la pochette. Donc, bah, moi, je me suis plié à l'exercice de style parce que j'adore avoir des contraintes, donc ça me va très bien.
On a compris ça, oui.
Et donc, je me suis dit, je vais copier un peu ça, et donc... Il y a des chapitres qui sont plus musicologiques où j'analyse vraiment les changements d'accords, les textures, etc. Il y a d'autres chapitres qui parlent d'autres chansons où c'est plus autobiographique.
C'est ça, tu parles un peu de comment tu as découvert tel ou tel...
Des moments d'écoute aussi différentes, soit très confortables, soit au contraire hyper rustiques. Et puis le dernier morceau qui est le plus connu mais qu'on va pas passer aujourd'hui parce qu'on peut pas tout passer, puis les morceaux de Céline ils sont très longs donc difficile de tout passer, où là j'ai joué sur un élément récurrent qui ponctue la découverte du morceau, mais en faisant une espèce de copie littéraire du procédé musical qu'ils utilisent, très répétitif dans ce morceau. Voilà. Et
mot,
après, ouais, vas-y.
Un petit mot sur Four Dinner, ce qu'on va écouter.
Ouais, sur Four Dinner, c'est je me fais engueuler. Four Dinner.
Four Dinner, pardon.
c'est le morceau le plus bizarre de l'album. Donc déjà, parce qu'il n'y a pas de chant. Et un titre assez bizarre. Moi, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi ils avaient appelé ce morceau comme ça. Et je le dis, hein, franchement, à la fin du chapitre. C'est un morceau hyper répétitif. Et ça me fait super plaisir qu'il passe à la radio. Parce que c'est le genre de morceau qui ne passe jamais à la radio. Et donc bah là, c'est l'occasion d'écouter un morceau aussi bizarre qui est un petit clin d'œil aussi à Couperin, puisque là, il y a un titre très bizarre et qu'on te livre et puis débrouille-toi, tu dois imaginer quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'il y a un paragraphe que je voulais lire sur ce morceau-là avant qu'on l'écoute, sur le côté très spécifique de ce morceau, qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas de paroles, ça reste encore de la chanson pour moi. Je vais lire, ce sera plus simple. Le groupe s'attelle aussi à traiter la thématique la plus difficile et ambiguë qui soit, celle de l'absence. Absence de la reine de Nosferatu, absence de la clé pour l'âme de Don, commémoration par persistance d'une répétition absente dans Washer, arrêtons-nous sur le morceau le plus discret de l'album, mais sans doute aussi le plus original. Four Diner avec ses instruments brebis errantes, perdus sans leur chant berger, s'inscrit après Washer, morceau qui traite de la séparation du couple, couple d'amoureux mais aussi couple parole et musique. Puis dans le morceau Good Morning Captain, qui suit, le chant revient en s'imposant de manière intrusive, avec la phrase « Let me in ». Ainsi, le morceau « Four Diner » n'est pas un simple instrumental, mais plutôt un morceau au degré zéro du chant. Il se comprend à l'échelle de l'album, sur un mode original, à la fois conceptuel et très concret.
Thank you.
C'était un deuxième extrait de cet album de Sleen dont tu es venu nous parler et je t'en remercie déjà avant qu'on se quitte, Sylvain, pour ce titre, c'était Four Diner, donc toujours sur cet album Spiderland de 1991. Et il nous a permis d'aborder plein de choses. Il y a plein de choses dans ton livre, hein, on n'aura pas le temps de parler tous, on renvoie les auditeurs, mais peut-être sur... Je ne sais pas comment tu as envie de rebondir sur cette toute fin. On va se quitter avec un dernier titre, mais qui ne sera pas de Sleen d'ailleurs, qui sera une façon de parler un petit peu de la suite éventuelle de groupes qui ont écouté Sleen peut-être. Ou qui ont...
Ouais, bah, l'affiliation de Sleen, moi je trouve qu'elle n'est pas si répandue que ça, parce qu'il y a quand même un mariage assez incroyable de plein d'influences. Et il y a l'art de la chanson, il y a le goût pour l'expérimentation, et ensuite on les retrouve dans l'album de Bonnie Prince Billy de Palace Brothers, donc ils font le backing band de
premier
cet album que j'adore,
ouais.
Qui s'appelle There is no one take care of you, et où là ils ont un registre plus Delta Blues donc là je renvoie aussi à un autre discogonie qui est sorti en même temps que le mien, qui parle du travail du chanteur
Bonnie Prince Billy,
ouais. Ou Will Oldham, enfin il a changé de nom, oui. 40 fois, donc bon courage pour retomber sur ses pattes. Et donc voilà, qui est aussi un livre intéressant.
I See a Darkness, c'est le nom de l'album qui est le sujet de ce livre.
Et puis moi, ce que je retiens, c'est quand même peut-être le lien entre mon travail et puis celui de Sleen, même s'il n'y en a pas beaucoup, et même si c'est des deux bouts qui ont du mal à se recoller ensemble, c'est le goût pour la chanson et pour l'expérimentation. Voilà, et puis après, pour les ambiances, et pour finir, on s'est mis d'accord qu'on allait retenir un morceau d'un autre groupe qui s'appelle Karaté, où on retrouve un peu les ambiances de Sleen, avec une approche un petit peu plus bluesy, mais toujours des rythmes un peu coupés, comme ça, qui est Karaté, donc c'est toi qui as
les textures aussi, ouais.
Les textures, et c'est toi qui as choisi le titre, donc je te laisse peut-être en parler.
Bah c'est le premier titre qui est sorti de Karaté sur une belle rétrospective qui est parue cette année, qui pour moi est une des plus belles rééditions de l'année. On y reviendra à la fin de l'année à ces choses qui sont sorties cette année. Moi je te remercie chaudement d'être venu. Moi je trouve que la lecture est passionnante pour inciter encore les gens à aller voir de plus près comment tu écris. Je trouve que c'est ce livre, ton livre, il s'inscrit pleinement dans la collection Discogonie, parce qu'il s'attache au développement, au dévoilement progressif de toute la richesse de ce disque, qui est, tu le dis à un moment dans ton livre, d'une densité d'informations exceptionnelle. C'est exactement ce que je trouve aussi dans ton livre, une densité d'informations, je trouve qu'aussi ça se prête à cette collection parce que le disque demande aussi une vision d'ensemble que tu as dans ce livre. Donc merci Sylvain, et je lance l'invitation pour une nouvelle carte blanche un de ces jours.
Ouais, avec plaisir, ouais. Je suis super content. C'était la première émission de radio à laquelle j'ai participé, donc un petit baptême. Ouais, non, mais j'étais ravi de venir
à cette émission.
Ouais, ouais.
Et on se quitte avec génial. Complete Studio Recording, donc sorti cette année, le morceau Gasoline. Merci encore, Sylvain. À bientôt.
sugar. Hey, sugar, sugar. Just to watch you.